OK, attention. 1, 2, 3. Cheese!
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
T'es stagiaire postdoctoral à l'Université Laval? Ta convention collective arrive bientôt à son échéance et doit être négociée avec ton employeur, l'Université Laval. Mobilise-toi et tiens-toi informé. Pose des questions, entre en contact avec ton syndicat pour plus d'informations par courriel step@step.ulaval.ca ou par téléphone au 88 656 5990. Oublie surtout pas de suivre notre page Facebook Step Université Laval ainsi que le site web www.infostep.org. Tous ensemble vers la négo.
Et les midi pile, et ça sonne le début des affamés. Affamés d'informations, affamés d'actualité, affamés de plaisir. Bienvenue, Félix-Antoine Audet qui est avec vous comme tous les mardis. Hier, c'était une déviation de la programmation régulière. Vous êtes donc pris avec moi une journée de plus. Mégane Asselin, comme à l'habitude, qui est avec moi. Salut Mégane.
Salut, ça va bien?
Ah, que ça va bien. Et je suis content de voir que ça ne t'aura pris que 2 semaines pour réaliser qu'un de tes rôles principaux, c'est de me gérer. J'étais en train de me promener un peu partout 5 minutes avant le début de l'émission. Puis elle vient me voir, elle dit là, tu rentres-tu là?
C'est l'histoire des 100 pas de Félix-Antoine Audet.
F2A, bien heureux d'être avec vous. C'est moi ça, F2A. J'aime bien ce petit nom qu'on m'a déjà affublé à la radio. Mégane?
Oui.
T'es-tu perdue un peu?
Ah, oh, je sais que tu vas parler de ce que je sais que tu vas parler.
Je te l'ai déjà dit. Tout ce que tu me dis en privé peut être retenu contre toi. C'est comme quand tu te fais arrêter. Tu ne peux rien me dire en confidence. Ça peut toujours se retrouver sur les ondes hertziennes. On est des amateurs de cinéma, les deux.
Ben oui.
Quand même, on aime bien ça. Et Avatar 2 s'en vient bientôt. C'est une réalité, ça. Ça a été un film marquant, Avatar 1. On a tous hâte de voir Avatar 2. Sauf que t'es peut-être trop excité et trop énervé à l'idée de le voir parce que Avatar 1 est revenu dans les salles?
Ben, écoute, non, mais premièrement...
Toi?
OK, je suis peut-être mêlée, OK? Je suis peut-être mêlée. Mais c'est qui fait ça? Remettre un film qui a déjà été à l'affiche? À l'affiche! Ça a déjà été fait!
Vous comprendrez donc que Mégane Asselin, ben elle, croyait qu'il s'agissait d'Avatar 1, 2 qui était en salle. Allez le voir. C'est à quel moment que tu as réalisé que tu t'étais planté?
Ben là, j'arrive, j'écoute le... Je suis dans la salle, les bandes-annonces commencent. Et je vois la bande-annonce d'Avatar 2. Puis là, je suis comme, ben c'est bizarre hein, qu'ils mettent la même affaire.
C'est un peu étrange.
Eh bien, écoute, c'est ça. Ça a commencé, puis à un moment donné, j'ai allumé. Là, j'étais comme, ben voyons, t'es conne, Megan. Tu sais, c'était écrit Avatar, mais moi.
Ça a pris combien de minutes dans le film?
Ah, ça n'a pas été long. Mais tu sais, wow. Avatar, c'est un film que j'ai bien aimé, puis j'ai écouté plusieurs fois dans ma vie. Fait que, tu sais, j'étais habituée du commencement, puis quand je l'ai vu, j'étais comme, ah, Megan, t'es conne un petit peu. Là.
Ça aurait peut-être pu être un scénario Top Gun, là. Top Gun Maverick, qui commence presque de la même façon que Top Gun, l'original. Peut-être que tu t'es dit pendant comme 5 minutes, ah, c'est une décision stylistique intéressante.
J'aurais aimé ça, parce que sérieusement, je me suis trouvée idiote, puis je pense que je n'étais pas la seule sur place qui s'était déplacée en pensant que c'était Avatar 2.
Y a-t-il des gens qui ont quitté en frustration quand le film a commencé?
Non, je pense que ben, tout le monde a voulu comme dire, ben, j'ai payé mon billet, je vais l'écouter, Maudine.
Alors, Mégane, un peu mélangée, mais qui réussit quand même à me gérer, parce que je suis probablement quand même plus mélangé. Je vous mentirai pas, on a tout un programme. Je vous mentirai pas comme si c'était négatif. Je suis bien heureux de vous dire qu'on a tout un programme pour vous lors de la prochaine heure. Évidemment, on parle politique. C'est la dernière semaine de campagne électorale. On continue notre tournée des députés, des candidats au poste de député de Jean Talon. C'est Joëlle Boutin, la députée sortante pour la coalition Avenir Québec, qui vient nous rejoindre environ vers 12h30. Manquez pas ça. Il y a beaucoup de choses dont on veut jaser, notamment dans l'actualité d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont été apprises. On va commencer bientôt à en parler. Je veux quand même revenir sur un nouveau sondage. Dernier sondage léger, si je ne me trompe pas, de la campagne sur les intentions de vote. Savez-vous quoi? ça bouge pas tant que ça. Les aiguilles sont pas mal au neutre, là. Mais on voit certaines tendances quand même.
Oui.
Qui sont importantes à mentionner. Faut dire que François Legault et la CAQ perdent un autre point de pourcentage. C'est pas énorme, c'est encore dans la marge d'erreur, mais ça fait depuis le début de la campagne quand même 5 points de pourcentage perdus par la CAQ, qui est à 37 % maintenant, toujours largement en avance. Un autre point qui est intéressant à soulever, encore une fois, là, vous comprendrez que c'est tellement des écarts minimes que tout est dans la marge d'erreur, mais on va quand même le souligner. Je pense que c'est la première fois que dans un sondage officiel, Québec solidaire est deuxième dans les intentions de vote totales. Faut quand même préciser, là, évidemment, on parle à la communauté étudiante, on le sait qu'il y a beaucoup de supporters de Québec solidaire qui nous écoutent. Faites-vous pas d'idée, là. C'est pas parce qu'en intention de vote totale, ils sont en avance sur les libéraux que concrètement, ça veut dire qu'ils risquent de se retrouver dans le siège de l'opposition officielle. On est encore loin pour la simple et bonne raison que le vote libéral est un peu plus concentré et est un peu plus efficace, comme on veut dire.
Ils ont peut-être plus de chances d'avoir des sièges que Québec solidaire.
Et surtout dans le secteur de Laval, plusieurs secteurs de Montréal. Quoique Québec solidaire pourrait leur ravir quelques-uns de ces sièges-là dans Montréal. Mais généralement, les libéraux sont encore majoritairement favoris là, pour remporter l'opposition officielle. C'est ce qu'on évalue encore, notamment dans ces sondages légers. L'autre est probablement la plus grande tendance à remarquer depuis le début de la campagne, c'est la remontée du Parti québécois avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense qu'il a conquis beaucoup de cœurs. Du côté du chef du Parti québécois, on le connaissait peu, il n'était pas à l'Assemblée nationale, on le rappelle, a été élu pendant le dernier mandat, il n'était pas dans les députés déjà existants. Je pense que son attitude, sa fraîcheur, a vraiment fait bouger les aiguilles du côté du Parti québécois. Est-ce que ça va être suffisant pour faire élire quelqu'un d'autre que Pascal Bérubé? Probablement pas. Encore une fois, selon les agrégateurs de sondages, selon ce qu'on voit. Mais reste qu'en ce moment, on est à 15 % une hausse de 2 points comparativement au dernier sondage.
C'est une très belle surprise.
Une hausse de 5 ou 6 points, là, dépendamment de quel sondage vous regardiez. Depuis le début de la campagne, c'est la hausse, le changement le plus marqué. Et ça s'est fait notamment aux dépens de la CAQ. On sait que c'est deux partis qui, au niveau nationalisme, se ressemblent quand même. Évidemment, plus indépendantistes du côté du Parti québécois. Et le Parti conservateur, qui semble un peu avoir plafonné. C'est ce qui ressort un peu du sondage léger. C'est l'analyse, notamment, de la firme de sondage, en disant que le Parti conservateur est le deuxième choix de très peu d'électeurs.
Non, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas.
Exactement. Contrairement aux autres partis qui ont tous quand même une marge de quelques pourcentages d'électeurs qu'ils considèrent comme leur deuxième choix de prédilection, c'est minime. Chez le Parti conservateur, c'est ce qu'on disait depuis longtemps chez la firme Léger, et on le voit de plus en plus, là, le potentiel de croissance se limite un peu à ce 15%-là, du moins pour l'instant. On semble pas être capable de dépasser cette marque-là. Mais un peu comme les libéraux, pas aussi efficacement, le vote est plus concentré. Dans certaines régions, dans Chaudière-Appalaches, dans la grande région de Québec, là, on a peut-être plus de chances de voir des députés conservateurs être élus, notamment Éric Duhaime dans Chauveau. Il faut rappeler que Chauveau, c'est une des circonscriptions avec le plus haut taux de vote par anticipation. Ça va certainement être à surveiller là, au cours des prochaines élections. Je veux toucher aussi rapidement sur la dernière controverse de la campagne électorale.
Oui.
Les fameux tracts, les fameuses publicités. on l'a vu du côté de Québec solidaire, une avocate de formation, candidate dans Camille Lorrain, compétitrice à Paul Saint-Pierre Plamondon d'ailleurs, qui a été pris en flagrant délit à remplacer les...
C'est fou pareil!
C'est fou. Et là, on va un peu dans l'opinion. Et vous m'avez vu un peu là, dans les dernières semaines. Là, je suis le premier à dire c'est des tempêtes dans des verres d'eau quand je considère que c'est pas important. Là, je trouve qu'on banalise un peu. On banalise un peu, surtout du côté des partisans de Québec solidaire. De tous les côtés, il y a toujours des dérapes un peu. Là, je pense qu'on banalise. On dit il y a des affaires plus graves. Oui, certainement, il y a des choses plus graves. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose de problématique puis qui méritait de voir la démission, entre gros guillemets. Là, on s'est entendu que la démission, elle a été wink-wink, ah ouais, démissionne. Après la rencontre, je pense que c'était la seule décision qui pouvait se faire. Je pense que c'est important, surtout dans le contexte, le climat actuel des élections, de jouer comme il faut, C'est un grand jeu, les élections, là. Évidemment, là, c'est une façon de voir les choses. Mais je pense pas qu'il faut banaliser ce genre de comportement-là. Est-ce que c'est la chose la plus dramatique qu'il y a? Est-ce qu'il y a des choses plus importantes à régler? Clairement. Mais ça ne veut pas dire que c'est un comportement qui ne fait pas de sens. Très certainement, si c'était la CAQ qui avait été prise la main dans le sac ou le Parti conservateur à faire ça, à Québec solidaire, pas mal sûr qu'on aurait été les premiers du côté des partisans de Québec solidaire. Je pense que la constance, moi, c'est toujours la chose que je veux voir le plus. J'ai beaucoup de difficultés, peu importe le parti, à voir un manque de constance. Et de décrier quelque chose, mais quand ça s'applique à notre parti, mais là, oh non, ça, c'est plus grave.
Je comprends.
Je pense qu'il faut décrier. Je pense que la démocratie doit jouer dans les règles de l'art, dans les règles du jeu. Clairement, des exclus, c'était pas suffisant. C'est pas acceptable. On le voit dans la vidéo.
Là, c'est arrivé vraiment avec la candidate comment on dit ça? Ben, tu sais, qui veut être élu là, par la communauté.
Il y avait des chances, là, en plus. Était deuxième dans les intentions de vote.
Ben oui, puis tu sais, je vois là ce qui s'est passé avec le PQ aussi. Aujourd'hui, ça a sorti. C'est arrivé également.
Oui.
Mais ce n'était pas le candidat, c'était vraiment un bénévole. Donc, tu sais.
Évidemment, est-ce que c'était une consigne du Parti québécois? On le saura jamais.
Ouais.
Là, je veux pas aller dans les théories du complot. On le saura jamais. Malheureusement, c'est plus difficile à ce moment-là d'inférer puis de demander une démission.
Je trouve ça spécial quand même.
Mais c'est particulier. Je pense que notre démocratie mérite mieux. Je reprendrai les paroles de Gabriel Coulombe, là, pas pour prendre parti pris d'un parti ou d'un autre, mais le candidat du Parti québécois qui était venu avec nous hier. La démocratie, l'état de la santé de la démocratie, c'est pas noir ou blanc. Il y a du gris. C'est peut-être du gris très, très pâle, ce que ça rajoute de faire des actions comme ça, mais c'est quand même quelque chose à ne pas sous-estimer. Faut savoir mettre une limite quelque part. Puis je suis quand même content de voir qu'on a pris cette décision-là assez rapidement du côté de Québec solidaire. On sait pas, on n'a pas attendu qu'il y ait vraiment la température qui commence à monter. On l'a rencontré, on a fait non, clairement, ça marchera pas. On l'a incité à démissionner et ça a été fait. Mais je pense qu'au niveau de notre démocratie, oui, d'avoir pris cette décision-là, c'est une bonne chose, mais c'est surtout une bonne chose parce que ça donne des chances à Paul Saint-Pierre Plamondon de pouvoir passer. Et encore une fois, prenez pas ça pour un fait je vote péquiste, fait que je veux absolument qu'il passe. De toute façon, je vous le dirai pas pour qui je votais, mais vous ne pourriez pas le deviner, je suis pas mal convaincu. Clairement, du côté de la démocratie, un parti à 15%, ça ne ferait pas de sens pour moi qu'il n'y ait aucun député ou seulement un député. Évidemment, on n'a pas de réforme du scrutin. François Legault qui a fermé la porte encore là-dessus. On va en reparler sous peu. Mais de la même manière qu'Éric Duhaime, peu importe là, que vous soyez d'accord avec les opinions de Paul Saint-Pierre Plamondon, d'Éric Duhaime, du Parti conservateur, du Parti québécois, c'est difficile à imaginer qu'un parti qui a 15% des intentions de vote au Québec n'ait pas un seul député ou n'en ait qu'un seul et que le chef ne soit pas élu. Je pense que pour notre démocratie, c'est sain d'avoir cette diversité d'opinions-là à l'Assemblée nationale.
Ah oui.
Donc, j'espère que ça va peut-être mener à l'élection là, de Paul Saint-Pierre Plamondon. Comme j'aimerais bien, honnêtement, qu'Éric Duhaime puisse passer à l'Assemblée nationale pour pouvoir exprimer. Il y a quand même un 15% de gens qui votent pour ce gars-là.
Tout à fait.
Puis, d'avoir cette voix à l'Assemblée nationale, ça évite la grogne. Ça aide contre la division sociale qu'on a en ce moment. Peut-être qu'Éric Duhaime, certains pourraient l'accuser de l'attiser. Certainement, mais d'au moins d'avoir la voix représentée, on a l'impression que notre vote compte, c'est important pour tout le monde. Pas juste pour les gens qui pensent comme nous.
Ouais.
C'est là des fois où je trouve qu'on a des écarts partisans politiques. On est un peu comme des fans d'équipe sportive. Hein?
On prend ça vraiment de façon émotionnelle.
Oui. Puis on veut absolument que notre équipe gagne et qu'elle soit la meilleure, mais c'est gris. Il n'y a personne qui est noir ou blanc. Il y a du gris un peu partout. On va prendre une première pause musicale. C'est Clay and Friends avec C'est tout sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'était deux billets d'avion, mais on a manqué le vol. Voulu lui faire la cour, jamais été à l'école. Je connaissais comme mon alphabet, un peu comme LMN, OP. La vie passe en un clin d'œil, je t'enfonce dans le fleuve. Soit ta bouteille était forte, mon wifi il est faible. Bébé m'a dit qu'elle sera vegan. Sauf les jours de la fin de semaine. Rappelle-moi ses numéros. Et c'est jusqu'à l'an 3000. Pour le meilleur ou le pire. J'y viens des pays chauds où on parle avec les mains. Comme un retour d'impôt, tout le monde la voulait. Elle m'a jamais demandé mon signe. J'en ai oublié Joséphine. C'est tout.
poil, mets les mains sur le miroir. La musique à beaucoup large, j'ai toujours voulu un chien. Mais là, je donne ma langue à son chat. On a fumé dans le bain pour changer de l'eau en vin. Il n'a pas mouillé ses mains, il était, indien. Son appartement était si sale. Il a fait le ménage à trois. Si ma mémoire fait défaut, rappelle-moi ses numéros. Et c'est jusqu'à l'an 3000.
Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Midi 15, presque 16 à Chiz 94.3. Vous écoutez, j'allais dire conduite antisportive. J'ai animé cette émission-là trop longtemps. Mais non, vous écoutez bien Les Affamés, l'émission d'actualité de Chiz 94.3. Petit ramassé. Coalition Avenir Québec, c'est d'ailleurs approprié parce que Joëlle Boutin, la députée sortante de Jean Talon, va être avec nous dans quelques minutes. Mais François Legault, qui a été en conférence de presse, il y a deux gros sujets dans l'actualité d'aujourd'hui. Avant de mentionner les déclarations de François Legault, on a appris ce matin par Radio-Canada qu'il y aurait des données exhaustives sur un projet de troisième lien centre-ville à centre-ville qui ont été données au premier ministre du Québec, à Régis Labeaume, à Gilles Lehoulier, au ministère des Transports. Ça a été fait. Est-ce que c'est une étude complète? Non, mais c'est quand même important, une quantité exhaustive qu'on dit de données qui parle du projet, oui, à 6 voies, mais reste que c'est centre-ville à centre-ville. Ce qu'on disait un peu qu'on n'avait pas, là. On joue un peu sur les mots du côté de la Coalition Avenir Québec en disant non, mais c'est pas une étude, on dit on n'a pas d'étude complète. Mais il y avait quand même l'information disponible et il y a beaucoup de partis, en fait tous les partis en ce moment critiquent.
C'est sûr.
Et surtout qu'il s'agit d'une question tellement importante pour les électeurs, surtout de la région de Québec, pro ou contre troisième lien. Tout le monde a une opinion sur le troisième lien à Québec, là. Et même en dehors, mais on va se concentrer à Québec. Je pense quand même que c'est un enjeu de la région qui devrait être discuté majoritairement par la région. Tout le monde a son opinion, mais il me semble que c'est le fun de pouvoir prendre une décision informée. Devant l'urne, d'avoir une idée un peu s'il y a réellement un besoin, s'il y a réellement une demande. S'il y en a une, elle est comment? Est-ce que ça va aider? À quel point ça va aider? Est-ce que ça n'aidera pas? C'est pas à nous de le dire, c'est aux scientifiques.
C'est une étude.
Mais on a besoin de le savoir. Évidemment, même si c'est pas une étude complète, demandez à n'importe qui à Québec. Est-ce que je veux avoir cette information-là avant de voter? La réponse, je suis pas mal sûr qu'elle va être tout le temps oui. Pas mal sûr que tout le monde va vouloir savoir qu'est-ce qu'on en dit. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'avoir la sortie du côté de Québec, c'est efficace ou non? Toutes ces données-là, peu importe que ce soit 6 voix ou 4 voix, là, le nombre d'utilisateurs qui vont l'utiliser, ça sera la même chose. Le nombre de voix ne va pas changer, le nombre d'utilisateurs, la demande. L'effet sur l'engorgement du côté des ponts à l'ouest, ça ne changera pas grand-chose de savoir combien de voix il y a en ce moment. Peut-être que ça veut dire qu'il y aura plus de trafic dessus. On comprend qu'il y a peut-être des différences. Mais de croire que les gens, ça ne changera rien ou que c'est pas important vu que c'est différent un petit peu, c'est sous-estimer l'intelligence des électeurs. Je pense que les gens sont capables de faire la différence pour « Ah, il y a peut-être, oui, des petites différences, c'est peut-être pas complet, mais au moins, on est capable d'avoir de l'information. » Et du côté de François Legault, bien évidemment, on se défend. On dit « On n'est pas en train de rien cacher, là, c'est juste que c'est pas des études complètes. On va attendre d'avoir vraiment une étude complète en 2023 pour la rendre publique. » Ça fait réagir très certainement. Et une autre déclaration de François Legault qui fait réagir, elle dit qu'il ferait de la place à l'opposition. J'aime pas être cynique. En politique, c'est facile d'être cynique. C'est facile de vouloir croire et de voir du mal dans tout. Mais ça reste quand même difficile de croire à ça. François Legault qui veut être de bonne foi avec les partis de l'opposition. Ceux qui seront de bonne foi avec lui, travailler avec eux, intégrer certaines de leurs idées, peut-être en environnement notamment, qu'il a mentionné, sans mentionner d'idées précises. On va peut-être essayer de questionner, tirer les verres du nez de Mme Boutin, savoir s'il y a quelque chose en particulier qui a intéressé là, dans la campagne électorale des autres partis, parce que du côté de la CAQ, les plans environnementaux, là, on les a tous critiqués. Il n'y a pas un plan environnemental qui n'a pas été critiqué. Donc, il est où le point qu'on trouve intéressant? Je suis curieux de l'entendre. Il y a des choses qu'on veut avoir comme réponse. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous voyez une collaboration entre la CAQ et d'autres partis de l'opposition? Parce que je pense que c'est unanime, là. Il n'y a pas grand Québécois qui aimerait pas ça, que tous les partis mettent un peu de vin, d'eau dans leur vin, puis se parlent. Je pense qu'on l'a vu, là, la hausse de popularité de Paul-Saint-Pierre Plamondon.
Oui.
Elle n'est pas étrangère au fait que, justement, dans les débats, dans les sorties publiques, on est moins dans la confrontation, on est plus dans la discussion.
Et ça fait du bien. Ça fait différent. Du bien parce que, dans les dernières années, quand on fait l'écoute de débats, on entend souvent les politiciens. Ça en revient à une cour de maternelle. Là. C'est la chicane, on se coupe, on essaye d'embarquer, on parle plus fort que l'autre. Ça vient que c'est plus pertinent pour la population, d'écouter ces débats-là. Tandis que là, on a vraiment eu un nouveau modèle, je pense, avec Paul-Saint-Pierre Plamondon qui, lui, il était posé dès le départ. Il apporte des chiffres, il apporte des études, il apporte des faits qui sont quand même assez pertinents puis qui nous font penser que ça pourrait vraiment être un très bon chef d'opposition. Là.
Mais comme je vous dis, je suis peut-être suroptimiste. Moi, je veux y croire. Je veux y croire que M. Legault a réellement l'intention. Est-ce que ça va fonctionner à long terme? Parce qu'il veut pas prendre d'engagement ferme
non,
là-dessus.
Non, c'est ça, exactement.
Mais c'est facile d'être cynique. Je veux croire aux bonnes intentions.
J'ai hâte de voir ça.
Exactement. Je pense que si on réussit vraiment, là, surtout considérant la proportion incroyable de sièges que va prendre la CAQ considérablement comparablement aux intentions de vote qui risquent d'être reflétées, je pense que de voir ça et de comprendre qu'il y a un appétit pour le partage des opinions, ce serait intéressant d'avoir ça à l'Assemblée nationale pour les 4 prochaines années. Est-ce que ce sera le cas? On le verra. Maintenant, je vous introduis à une nouvelle chronique que vous allez avoir tous les mardis. Parce que, Mégane, tu m'apprenais ça, qu'on apprend à se connaître tranquillement. Tu adores l'actualité européenne et internationale.
En effet.
Tu la suis peut-être même presque plus que l'actualité locale et régionale. Alors, à tous les mardis, on va toucher à un sujet d'actualité internationale européenne dans ces secteurs-là qui t'a marqué. Et cette semaine, on parle de la crise en Iran. On en a très peu parlé, trop peu parlé à cette émission. J'en prends le blâme. Mais je veux qu'on puisse revenir, comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Où est-ce qu'on en est aussi?
Oui, je vais t'avouer que oui, au début, avant d'être chez Chiz, je m'informais beaucoup plus sur l'actualité de l'international, étant donné que moi, j'ai un deck en tourisme. Fait que, tu sais, les politiques étrangères, toutes ces affaires-là, je dois être au courant. Tu sais, c'est des choses qu'on m'a habitué de faire, puis c'est des choses que j'ai continué de faire également. Et là, justement, cette semaine, même depuis la semaine dernière, il se passe quelque chose d'énorme en Iran. Une femme, Mahsa Amini, qui a été... je peux pas dire assassiné, mais tu sais, on l'a retrouvé décédé à la suite d'un coup à la tête.
On suppose.
On suppose, exactement. Et ça le fait polémique là dans le pays. Les gens sortent dehors, ils font des manifestations. Et
le contexte, rappelons-le, là, ce qu'on croit bien en comprendre, c'est que c'était à cause d'un voile mal placé.
Exactement.
On voyait ses cheveux. Et c'est là que, du côté des autorités policières, il y aurait eu intervention qui aurait mené à sa mort. Encore une fois, on peut pas se permettre d'y aller en affirmation, mais vous comprendrez qu'à voir la révolution qui s'y passe en ce moment, on s'en doute fortement.
Ouais, puis c'est pas la première fois que ça arrive cette année, des choses comme ça qui font titiller là, les gens. Puis il y a des manifestations qui ont eu lieu cette année. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts parce que là-bas, on ne peut pas sortir dans les rues, bloquer les routes comme on veut. Et pour le moment, là, on croit, selon l'ONG, qu'il y aurait au moins 76 personnes qui seraient qui ont été tuées dans les manifestations par les forces policières.
Parce évidemment, vous avez vu les images, là. Vous comprendrez que ça a fait un tollé.
Oui.
Du côté de l'Iran, les femmes qui sont sorties massivement dans la rue, pas juste les femmes, mais majoritairement.
Mais beaucoup d'hommes aussi. C'est pas un combat de femmes nécessairement. Je crois que ça touche les deux sexes.
Oui.
On cherche à obtenir plus de droits pour les femmes dans ces pays-là. Et justement, le côté international, dans le reste de l'Europe, même au Canada, on a vu des femmes se couper les cheveux, se raser les cheveux, brûler leur voile. Il y a beaucoup de sympathie, d'empathie envers ce qui se passe en Iran. La communauté internationale est au courant de ce qui se passe. Puis, tu sais, pour le moment, l'Iran, ils ont décidé de couper Internet pour éviter justement d'avoir des vidéos qui sortent ou des informations qui sortent du pays. Donc, on est comme coupé du monde. Puis, ce qu'on nous demande, c'est d'en parler, c'est d'informer le plus de gens possible afin qu'on soit informé de ce qui se passe réellement en Iran. Puis que. C'est un enjeu qui vient toucher la moitié de la population. On veut pas, t'sais, on est des femmes, on est tous touchés par ça, puis c'est des enjeux qui sont très chauds pour le moment en Europe, là.
C'est une année particulière, malheureuse pour le droit des femmes, surtout le droit au choix. Je pense que c'est le mot magique, le droit au choix. On l'a vu du côté des États-Unis avec la révocation de Roe v. Wade. On le voit du côté de l'Iran avec le choix de porter le voile ou non. Là. Il y a eu beaucoup de témoignages ici au Québec, notamment. Il y a une communauté musulmane assez importante au Québec qui le dit, le choix. Et il y a des membres de famille qui portent le voile parce que c'est leur choix, puis les mêmes membres des mêmes personnes d'une autre famille, de la même famille, excusez-moi, d'autres personnes de la même famille, ben ne le porteront pas, c'est leur choix. Je pense que c'est important ce droit au choix, et on ne peut qu'espérer que ces révolutions, ces manifestations en Iran puissent porter leurs fruits. Il faut rappeler aussi que le Canada a issu des sanctions tout récemment envers plusieurs personnes en lien avec ces manifestations en Iran, donc la communauté internationale qui se mobilise aussi là, là-dessus. Merci, Megan. On va donc parler à chaque mardi d'enjeux internationaux et européens avec toi. Ben, les deux, européens, c'est international, tu me comprends bien, mais surtout dans ce secteur-là, là, c'est là que tu te spécialises. On va prendre une pause musicale, Loud Larry Adjust avec RSVP et quelques pauses publicitaires. Au retour, restez des nôtres, Joël Boutin, députée sortante de la Coalition Avenir Québec, est avec nous alors qu'on poursuit notre tournée électorale des candidats dans la circonscription de Jean Talon.
Hey girl, as-tu déjà célébré avec les gars qui prennent les risques? Personne ici qui se demande comment qui va payer une rent. Backstage life, pourri au catering. Baby, you ain't gotta worry, on va pas manquer de rien. Take le pic à l'Olympico, but I take no coffee breaks. Double espresso, make sure I'm working late. 25 heures sur la job, si tu voyais l'heure qu'il est. Boy, we work around the clock, on a pas le temps de l'reculer. Hustle tough, muzzle tough, on fait pas les shit à moitié. Y'a mon verre à moitié plein, don't make me think about it. Magnum de pain, champagne killer, si tu bois pas ce qu'on boit, boy, you got a drinking problem, Les supermodels, secouent les bottles sur le bord de l'eau. Le boy Sacha garde les sachets sous le pantalon. C'est pas de bomb in a long time, mon gars. We about to get it all night. I got my exes on my bad side. Une couple de haters dans mon angle mort. J'ai tous les homies en arrière-scène. Wave high when I see you, when I see you. J'ai le whole squad living the good life and you are not invited. J'ai le whole squad living the good life and you are not invited. Why don't you picture me a minute on a strawberry swing? On se flipper, sniffer with Monopoly bills. On reste frosty, seul moyen de rendre la vie belle. We rock the bells, Raph Simon suit, caramel, prosciutto, calabrese with the vino. Two Jew bitches in the kitchen with the kilo. Stones on the nozzle stick. The code, yeah, we honor it. The shows if I'm constantly the hoes. Hippopotamus, on close it, my person is a digger. See that I be kid, and them solid pillar on the miller. It's amazing, I know, on fella.
in the kennel. When we coming in the spotlight, boom, motherfucker, me room. Cavalli furs like Beckina, the cooler come Acina. Yeah, boy, we acting up. All night Dracula's, brand new Acura. Fresh paint immaculate, quite immaculate, oh.
I got my exes on my bad side. Une couple de haters dans mon angle mort. J'ai tous les homies en arrière-scène. Wave high when I see you, when I see you. J'ai le whole squad living the good life, and you are not invited. J'ai le whole squad living the good life, and you are not invited. Coolie supermodel, ce coolie bottle sur le bord de l'eau. Le boy Sasha garde les sachets sous le pantalon. It's boss the bomb in a long time, monger. We about to get it all night.
This is a Wyatt shirt rap. Saint Laurent boots with the Wyatt Earp hat on the ladder, dirt cap. So many hoes, que tu croyais que j'étais riche. Liquid cocaine, je me suis noyé with the fish. Puis on bumped view, woo. Le Rebel INS while I'm rolling up a blunt dans la nouvelle Cayenne-S. Le spirituel dans l'Ore Kandinsky sur le dash. Big bottle on my knees with the racks I'm wasting.
I just might hit the wave early, get super wavy early. So my worst behavior, so my fuck you pay me first thing. 2000 pieds carrés, redécoré pour le after party. Manque juste ton nom sur la guest, I guess it's but the soirée. It's that real shit, that shit that makes you feel shit. 1.18 lit on code, got me quoting Little Kim. Really shit I wrote in a long time, monger. And we about to get it all night. I got my exes on my bad side. Une couple de haters dans mon angle mort. J'ai tous les homies en arrière-scène. Wave high when I see you, when I see you. J'ai le whole squad living the good life, and you are not invited. J'ai le whole squad living the good life, and you are not invited.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
La passe est captée par son receveur, touché, Rouge et Or.
Le Rouge et Or reçoit les Redbirds de McGill, c'est dimanche 2 octobre sur les ondes de Chiz 94.3. L'équipe de football de l'Université Laval voudra offrir une deuxième performance dominante de suite à ses milliers de partisans présents dans les gradins, ça promet. Ne manquez pas l'avant-match dès 12h30 en direct du Stade TELUS en compagnie de Pascal Loubier, Sébastien Barbeau et Victor Marchand. Rouge et Or, Redbirds, ce dimanche 13h sur les ondes de Chiz, 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Midi 33 dans Les Affamés, Félix-Antoine Audet, Mégane Asselin qui vous accompagne pour encore une trentaine de minutes. Et on reçoit la députée sortante de la coalition Avenir Québec dans Jean Talon, Joëlle Boutin, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. On a beaucoup de choses dont on veut vous jaser, notamment avec ce qui s'est passé dans l'actualité aujourd'hui. On va commencer sans perdre de temps, mais avant toute chose, vous avez été élue dans une élection partielle. En 2019. C'est certainement très différent d'une campagne complète. C'est votre première avec la Coalition Avenir Québec en politique en général. En quoi ça a différé? Comment ça a été comme campagne?
Mais en fait, c'est ma troisième campagne électorale parce que je me suis présentée en 2018. J'ai été défaite contre Sébastien Proulx.
Mon erreur.
Ensuite, j'ai été nommée directrice de cabinet. Ensuite, quand Sébastien a démissionné, ils m'ont demandé de faire la partielle. Là, j'ai gagné. C'était vraiment un très beau moment. Puis là, c'est ma troisième campagne électorale. La différence, c'est moi, ça fait 2 ans et demi que je suis élue.
Oui.
Donc, la relation avec les citoyens n'est pas la même tout à fait.
Fait que c'est sûr que là, on vous reconnaît un peu plus. On a déjà eu des discussions avec vous. Puis, vous semblez, là, ne serait-ce que par votre présence.
Hein,
oui, je le
tantôt.
Sais. Je suis tellement pas bon là-dessus. En même temps, j'aime mieux avoir de la difficulté à tutoyer quand on me demande de le faire que l'inverse. Là. Je pense que c'est mieux comme ça, mais on va le faire. On va le faire.
Merci.
Donc, Joëlle, qui est avec nous. Je veux aussi, évidemment, toucher à l'environnement. Là, vous avez un débat ce soir, fait qu'on va vous aider à vous réchauffer. On va vous y préparer. Ce matin, Radio-Canada, qui confirme qu'il y a eu des données exhaustives sur la faisabilité d'un troisième lien centre-ville à centre-ville. C'est pas une étude, mais on joue peut-être un peu sur les mots parce qu'on nous a dit, bon, dans les débats, durant la campagne électorale, qu'il n'y avait pas d'études réalisées centre-ville à centre-ville, seulement à l'est. Pourquoi c'est pas disponible?
Bien, vous vous souvenez, il y a plus d'un an, on avait annoncé un précédent projet avec 6 voix. Donc,
oui.
Les études, bien, c'était pas des études, mais un début d'étude pour faire un dossier d'opportunité. Les données ont été recueillies pour ce projet-là, avant la pandémie. Donc là, moi, je n'ai pas vu ces données-là personnellement. Je sais que la Ville de Québec, la Ville de Lévis, ainsi que le ministère du Transport ont eu accès à ces données-là. Mais c'est des intrants qui sont encore réutilisés, réajustés pour prendre en considération le télétravail puis le fait que c'est un projet à 4 voies, puis qui vont être utilisés en partie et mis à jour, j'imagine, comme dans tous les dossiers d'opportunité qui vont être présentés en début 2023.
Ça a été déposé, c'est en 2021, le télétravail. C'était pas nouveau, là. On l'avait déjà, le
non, mais
télétravail.
Les fonctionnaires n'étaient pas en télétravail. Moi, c'est quelque chose que j'ai milité personnellement. Là. On a vu l'impact aussi sur la circulation pendant la pandémie du télétravail. Donc ça joue quand même.
Mais ne serait-ce qu'il y a quand même certainement des données qui doivent être pertinentes. Est-ce que c'est pas un peu sous-estimer les électeurs de croire que parce qu'il y a certaines données qui vont être différentes de 4 à 6 voix, c'est-à-dire le nombre de personnes qui risquent de l'utiliser, le désengorgement sur les ponts à l'ouest, qu'ils soient réels ou non en fonction du troisième lien, c'est pas pertinent, alors que c'est une question tellement importante de l'urne pour la région de Québec, d'avoir des informations pour les électeurs.
C'est une question pertinente, mais si on demande des données pour un projet à 6 voix, alors que c'est un projet à 4 voix qu'on fait, ça pourrait porter à confusion. C'est pas un projet à 6 voix qu'on fait, là. Puis les données ne sont plus à jour.
Je pense que les gens sont capables de faire la différence, là.
Mais il y a aucun gouvernement qui présente un ancien dossier d'opportunité. Il y a toujours une séquence, il y a un dossier d'opportunité. Il y a encore beaucoup d'études à y avoir, là. Ça, c'est quasiment pas préalable. Là. Il va y avoir le dossier d'opportunité, après ça, un dossier d'affaires, des études environnementales. Je rappelle que le projet doit passer à travers un bureau d'audience publique en environnement. Donc, il y a encore plusieurs étapes.
Mais reste... Je termine là-dessus, parce qu'on ne se battra pas sur les études pendant 15 minutes. Je comprends la position, mais... C'est comme je dis, un enjeu important pour la Ville de Québec. Il n'y a pas personne là, à Québec qui n'a pas une opinion sur le troisième lien. Est-ce qu'on peut pas essayer le plus possible d'informer les électeurs pour leur donner la possibilité d'avoir ne serait-ce qu'un semblant de piste de où est-ce qu'on peut s'enligner ou ce qu'on peut voir? Parce que les sources de Radio-Canada, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a quand même des données pertinentes sur la présence d'un certain nombre d'électeurs, de personnes qui vont traverser le pont, le troisième lien. Il y a des choses qui peuvent être pertinentes quand même. Là.
Ce sont des sources anonymes. Moi, je les ai pas vues, les
non,
données.
Exactement.
Là. Mais notre position est claire. Là, on va faire toutes les études, on va démontrer justement le dossier d'opportunité, puis une construction. De toute façon, le troisième lien ne sera pas construit avant 2032, 2035, si ça va bien. Tu sais, il y a plusieurs étapes avant ça. Mais puis ça, c'est tout. J'espère qu'on va parler aussi de mobilité régionale, là, puis du tramway aussi.
Certainement, mais je veux aussi revenir en environnement sur la manifestation de vendredi dernier.
Oui.
C'est un enjeu qui a quand même fait jaser durant la fin de semaine.
Ouais.
La réception, on va le dire, très froide et que Benoît Charrette a reçue parfois. On peut même dire impoli par moment, certainement, là, qui a causé à simplement quitter la manifestation. Comment vous avez perçu ça de votre côté?
Hey, je vais dire de quoi que je devrais pas dire.
Tant mieux, allons-y.
Mais je pense que Benoît Charrette, pour vrai, c'est quelqu'un, un ministre extrêmement rigoureux. Puis dès qu'il est arrivé en poste, il a fait plusieurs choses, plusieurs actions. On est très, très ambitieux. Écoute, on investit. En ce moment, il y a 56,5 milliards de projets de transport collectif au Québec. Là. C'est du jamais vu. Là. Les libéraux sont engagés à 3 % Puis même Québec solidaire, qui sont très ambitieux en transport collectif, là, on va se le dire, avait annoncé 33 milliards. Donc, on est vraiment loin. Devant le par rapport au transport collectif. Mais je pense que Benoît Charrette et le ministère de l'Environnement en général n'est pas un champion du marketing puis de la communication pour dire ce qu'on fait. Bon, ou c'est mal reçu, ou peut-être qu'on a été tagué le non-environnement, comme un parti qui est contre l'environnement, mais au contraire, c'est vraiment l'enjeu du siècle. Là. On est tous d'accord avec ça, sauf un parti. Là. On va se dire la vérité.
C'est
ça que je trouve dommage, c'est qu'il essaie d'expliquer, il y a plusieurs choses qui sont faites, mais on n'est pas les champions côté marketing environnemental. Là. Ça, okay. C'est, je devrais pas dire ça, mais je le dis.
Bon, ben, je vais vous laisser à ce moment-là, là, brièvement, le jeu qu'on en parle, d'autres choses que juste l'environnement, même si ça reste un sujet très important.
Ça me passionne, j'ai même travaillé là-dedans. Là, ça me passionne.
Je suis bien heureux de vous avoir, mais justement, alors, c'est quoi le plan environnemental, surtout pour la Ville de Québec, de la CAQ?
Bien, la Ville de Québec, c'est deux choses. Parce que la Ville de Québec a une responsabilité, notamment au niveau de l'adaptation des changements climatiques. On a mis des centaines de millions de dollars qui font partie justement du plan d'économie verte, mais qu'on en a rajouté dernièrement. Il y a le projet Oasis. C'est de l'argent qui était donné à toutes les municipalités. Montréal et Québec en ont eu plus que les autres. Mais eux, ils ont la responsabilité de présenter des projets pour se mettre en place des mesures d'adaptation. On va parler d'îlots de chaleur. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais un des îlots de chaleur majeurs au Canada, là, c'est en Basse-Ville de Québec. Écoutez, c'est au-dessus de la maison du père de mes enfants. Là. Ça donne une idée. Là. C'est vraiment un enjeu important. Donc, il y a de l'argent qui est donné aux villes. On va en rajouter s'il faut. Mais si on ressort le changement climatique, nous, on s'est engagé à diminuer de 37,5 % par rapport à 1990. Ça veut dire de diminuer de 34,5 % en 7 ans. Là. Mm-hmm. C'est énorme. La carboneutralité en 2050, interdiction des véhicules à essence en 2035. Puis d'ailleurs, on n'en parle jamais, là, la norme véhicule zéro émission. Là. Ça, c'était le précédent gouvernement qui avait entamé. Nous, on l'a mis en application en 2018. Puis l'objectif, on travaille avec la Californie puis la Colombie-Britannique aussi, c'est de stimuler les constructeurs à augmenter le nombre de véhicules électriques. Parce que nous, on croit beaucoup à l'électrification des transports. Il faut accélérer, justement, encourager les gens à acheter des véhicules à transport. Il faut aussi électrifier les autobus de ville, les autobus scolaires, les camions lourds, les industries. On a tellement un grand chantier. Puis, tu sais, je suis tellement crinquée puis passionnée de ça que hier, j'ai lu le plan stratégique d'Hydro-Québec parce qu'ils ont lancé un plan 2022-2026. C'est un plan stratégique pour les 10 prochaines années. Eux, ce qu'ils disent, c'est pour atteindre la carboneutralité, il faut augmenter de 100 TWh notre capacité. Mm-hmm. Mais aussi, en contrepartie, il faut améliorer notre efficacité énergétique. Mm-hmm. Donc, c'est quand même, on doit avoir des choix de société à faire pour augmenter notre capacité en termes d'électrification. Ouais. Là.
Vous êtes élu dans la circonscription de l'Université Laval. Évidemment, qui accueille, même s'ils votent parfois dans d'autres circonscriptions, beaucoup d'étudiants qui étudient à l'Université Laval, des étudiants qui sont grandement affectés par la crise du logement, notamment l'inflation, la recherche d'appartements qui est difficile et qui sont inquiets dans un futur à moyen long terme de ne pas pouvoir s'acheter une propriété. C'est quoi le plan de la CAQ pour ces étudiants-là, ces jeunes-là?
C'est vraiment un enjeu à Québec. L'enjeu, c'est plus l'abordabilité parce que le taux d'inoccupation, il est pas si mal, mais c'est assez cher là, à Sainte-Foy, on s'entend. Là, juste,
mm-hmm. En effet.
Marico,
juste
Marico.
Oui, c'est là que j'y ai vécu.
C'est 850$ par mois, puis c'est vraiment pas le gros luxe. Faut augmenter l'offre en logements sociaux et en logements abordables. Logements sociaux pas abordables, on n'a pas... c'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes choses. Puis ce qui était triste, c'est qu'on peut pas construire des logements sociaux pour étudiants. Ça cadrait dans aucun programme. Puis là, vous connaissez sûrement le projet Utile. Mm-hmm. Moi, je me suis battue personnellement pour ce projet-là. Là, j'ai été la porteuse au niveau du gouvernement du provincial. Puis ça l'a mené à la création du programme Logement abordable, parce que ça cadrait dans rien. Tu sais, quand on l'a appuyé avec des fonds qui cadraient dans rien. Puis là, on a poussé pour avoir le programme Logement abordable. Puis là, il y a une phase 2 que j'appuie d'ailleurs. Là. Moi, je suis 100 % ouverte. Fait que ça libère. C'est un beau modèle intéressant. Puis ça libère des logements. un des gros enjeux à Québec, en tout cas dans Sainte-Foy, c'est qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de terrain pour construire, là, des logements qui sont plus abordables. Par rapport à l'accessibilité, effectivement, on le voit, là, même moi, là, pour acheter, c'est super compliqué. Là, le prix, les prix ont vraiment augmenté avec l'inflation. On s'attend à ce que ça diminue dans les deux prochaines années. Mais j'ai eu cette discussion-là hier soir, c'est drôle, avec une citoyenne. Puis là, je disais, avez-vous vu le programme La Ville, un programme justement pour les premiers acheteurs? Si tu gagnes moins de 100 000, paye une subvention pour payer ta mise de fonds. Il y a, y a certains programmes. Moi, personnellement, je trouve que ça serait intéressant de peut-être le mettre ailleurs. Je ne sais pas si Montréal l'a, mais je trouve que c'est un programme qui est intéressant. On le finance. Là, on finance beaucoup la ville, nous. Mais ça, c'est un des programmes qui existent. Puis bon, c'est sûr qu'on a annoncé plusieurs mesures. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille là, mais pour aider, là, le monde critique les chèques qu'on donne, mais il y a des gens qui gagnent moins de 50 000 $ qui sont contents d'obtenir ce chèque-là ou la baisse des impôts. C'est quand même intéressant. Là.
Mais encore une fois, est-ce que des gens qui en font presque 100 000 en ont autant besoin de ce chèque-là? Est-ce que c'est...
Ils en ont moins, ils en ont vraiment moins.
Il y en a quand même. Là, le chèque de 500 qui a été donné, il a été donné à quoi, je pense, c'était 90 % environ là, du Québec.
C'est, si tu avais 100 000 et plus, tu ne l'as pas. Les députés ne l'ont pas eu.
Non, c'est ça, mais c'est quand même un chiffre important. Ouais. Je veux revenir sur le débat que vous avez eu à l'Université Laval la semaine dernière, mercredi, parce qu'une chose que vous avez dit qui m'a fait réagir, que j'ai été surpris d'entendre, parce que ça diffère un peu de ce qu'on entend de la ligne de parti de la CAQ, notamment François Legault qui l'a mentionné encore ce matin. Que la réforme du mode de scrutin, c'est non, niette, pas du tout. Quand on a touché au sujet lors du débat, vous avez dit c'est pas une priorité. Certainement, il y a d'autres choses à régler, mais ça reste sur les tablettes. C'est quelque chose qu'éventuellement on veut faire. C'est pas du tout ce qu'on a l'impression d'entendre là, de la part de François Legault. Est-ce que c'est qu'il y a une divergence d'opinion ou c'est juste que c'est mal compris, la position de François Legault?
Mais on en a parlé à un moment donné au caucus. T'sais, on a déposé un projet de loi, puis on avait tellement d'autres préoccupations des citoyens. C'était un peu la panique. On était en même temps que la pandémie, l'inflation qui montait, le système de santé. On a eu énormément de caucus sur le système de santé. Donc, à un moment donné, il n'y avait plus beaucoup de place pour discuter du mode de scrutin. C'est juste pas une priorité pour le moment.
Mais c'est ça, c'est ce mot magique que vous dites pour le moment. Ouais. Je comprends cette partie-là.
Mais c'est quelque chose qu'en notre caucus, on parle encore. Là.
Parce que c'est pas l'impression qu'on a là, quand on écoute François Legault en parler. On semble avoir plus un refus catégorique que quand on aura le temps. C'est-tu une mauvaise compréhension, une mauvaise communication?
Je pense que quand les citoyens vont démontrer l'intérêt pour ça, puis que ça va redevenir un enjeu, il y a une ouverture. On avait une ouverture avant, sinon on n'aurait pas. Tu sais, ça prend du temps à monter un projet de loi, là. Ouais. C'était pas un petit projet de loi,
non,
c'est quand même un gros projet de loi. On l'a déposé. On a eu beaucoup de discussions. Moi, j'ai eu des discussions quand j'étais directrice de cabinet. Donc, tu sais, ça monte. On perd pas notre temps comme ça, ces projets-là, pour le fun. Hein, on a quand même pris la peine. C'est juste que c'était. On a quand même eu 2 ans de pandémie. Puis, pour être bien honnête, ça a été surréel. Là.
Certainement.
Surréel.
Personnellement, à ce moment-là, évidemment, dans le vous me répondrez ce que vous en pensez, mais on va dans des spéculations. Le fait qu'avec 60 % de Québécois environ qui pourraient voter pour un autre parti que la CAQ, mais que vous vous trouviez avec environ 80 % des sièges, comment ça vous fait sentir?
Bien, je pense qu'on a une réflexion à y avoir. Tu sais, on regarde, parce que en fait, ce qui est intéressant aussi, parce que j'ai toujours aimé la politique, avant, on avait comme plus 2 partis, un combat avec 2 partis. Là, on est rendu à 5 partis, c'est quelque chose. Là. Donc, on va falloir qu'on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe aussi, et dans d'autres pays, Nouvelle-Zélande, c'est un autre exemple, qui a une émergence de plusieurs partis politiques. Donc, ça amène une dynamique différente. Donc, c'est nécessairement cette dynamique-là va amener une réflexion par rapport à ça. Moi, je le pense.
Je veux toucher aussi à un enjeu qui touche la communauté étudiante qui nous écoute présentement. Ça a fait plus jaser à Sherbrooke l'enjeu du changement d'adresse chez les étudiants. On a critiqué du côté de la Coalition Avenir Québec le fait que Québec solidaire demandait et encourageait les étudiants à changer leur adresse avant la date limite pour pouvoir voter dans la circonscription où ils vivent à l'université, vu que c'est peut-être une adresse temporaire. Vous, c'est quoi votre position là-dessus? Parce que certainement, il y a beaucoup d'étudiants qui, oui, votent ici pour une autre circonscription, mais en même temps, ils vivent. Fait que parfois, ils veulent peut-être changer leur adresse. Moi, par exemple, je viens de Laval. Je me suis installé à Québec. À un certain moment, je l'ai fait la transition de dire, ben là, je vis ici depuis un moment puis je vais y rester. À quel moment c'est correct? À quel moment ça ne l'est pas?
Mais je pense que ce qui a été critiqué, c'est plus la publicité sur le campus qui n'était pas autorisée. C'est plus ça. Mais honnêtement, moi, je pense que les gens devraient pouvoir choisir quelle adresse ils vont écrire, là, puis où est-ce qu'ils votent. Là. Moi, je suis plus pour la liberté de choix là-dessus, là, je vous avoue.
Il n'y
a personne qui va me dire où voter. Là,
je suis bien d'accord avec vous. On va un peu plus en rafale. Quelques questions. L'immigration fait beaucoup parler lors de la campagne électorale. Certains partis ont dénoncé parfois le ton qui pouvait peut-être être négatif. Comment avez-vous perçu la discussion autour de l'immigration lors de la campagne?
Ben moi, j'aime pas ça quand il y a de la chicane autour de l'immigration. Tu sais, j'ai un comté qui est vraiment quand même... Il y a deux pôles d'immigration vraiment à Québec, c'est Sainte-Foy puis la Basse-Ville, Saint-Sauveur. Tu sais, ma fille va à l'école Saint-Malo, qui est l'école la plus multiculturelle de Québec. Donc, pour moi, c'est super important, la diversité. Puis c'est une richesse pour le Québec. Puis d'ailleurs, dans notre plateforme de la Capitale-Nationale, on veut augmenter la proportion de gens issus de l'immigration qui viennent à Québec. On veut pas qu'il y ait juste à Montréal, là. Surtout qu'on manque de monde. Puis ça crée comme une diversité. Là, vous connaissez peut-être pas les paroisses de Jean Talon, là, mais dans le coin de Sainte-Ursule, Saint-Benoît, il y a vraiment une grande diversité. Écoute, il y a des soirées latino incroyables. Je vous invite à venir, là. C'est vraiment le fun. Donc, tu sais, moi, j'aime pas ça quand le monde se chicane. C'est pas comme ça qu'on va construire le Québec de demain, là.
On a pendant des années eu le débat fédéralisme souverainiste. Le nouveau terme à la mode, c'est nationaliste. C'est quoi être nationaliste pour la Coalition Avenir Québec?
Je pense que c'est d'être fier d'être Québécois, fier de notre histoire, de nos valeurs, notre culture, de notre langue. On a un devoir de la protéger. Je pense que c'est ça. Moi, je l'incarne. Moi, je pense vraiment comme ça. T'sais. Dans ma famille, il y a de tous les horizons politiques, là, pratiquement tout. Là. C'est pas une blague. Mais moi, j'ai toujours été très, très fier d'être Québécois. Je suis Québécoise avec mon cœur, puis Canadienne avec ma tête. On va dire ça de même.
Dernière question. Vous êtes pilote d'avion.
Oui.
Quelle leçon ou expérience avez-vous vécue comme pilote d'avion qui peut s'appliquer à votre carrière de politicienne?
Hey, je m'en sers encore. quand tu fais une approche aux instruments, mettons, imagine, là, on est en pleine nuit, on va atterrir à coups de jouac dans une grosse tempête de neige.
OK.
Puis là, c'est vraiment pas facile. Mais c'est d'être resté super concentré dans les moments où ça compte vraiment. Donc, c'est de focusser au maximum sur l'objectif. On va dire ça de même.
Simple et efficace. Oui. Les votes par anticipation pour les étudiants sur le campus ont commencé aujourd'hui pour encore quelques journées. Si vous avez 30 secondes pour convaincre des étudiants qui vous écoutent, pourquoi devraient-ils voter pour Joël Boutin et la Coalition Avenir Québec?
Ben moi, je leur dirais deux choses. Un, qu'ils devraient voter avec leur cœur. C'est super important. Et d'aller voter, peu importe, parce qu'on a tous l'opportunité de changer le monde. Puis aller voter, c'est une opportunité de choisir son prochain gouvernement. Mais moi, je ne fais pas de la politique pour un parti politique, malgré que je fais partie de la Coalition Avenir Québec. Je fais de la politique, moi, pour les citoyens. Puis je pense que je l'ai démontré aux citoyens qui me connaissent. En fait, personnellement, moi, je vais me battre pour eux. Je me bats pour les idées de mes citoyens. J'ai jamais peur de me lever dans mon caucus devant le premier ministre puis de parler au nom de mes citoyens. Voilà.
Bien, merci beaucoup, Mme Boutin, députée sortante de Jean Talon pour la Coalition Avenir Québec, candidate pour ce même parti. C'est très apprécié d'avoir donné de votre temps avec nous.
Merci beaucoup, Félix-Antoine.
Merci. On va en pause musicale. C'est Fouki avec Halsey à Chiz 94.3.
Back then, je comptais chaque scène. Yeah. Trois boys sur un Pac-Man. Yeah. Maintenant j'ai le micro et Mayen. Yeah. J'fais du rap à tous les matins. Yeah. Ma band, j'fais les bike jam. Yeah. J'concrétise ce que j'imagine. Yeah. All in sur mon avenir. Yeah. Rap, rap, rap. Feeling nausée. Yeah. Et on blesse, bro. So for reach le best spot. Yeah. Plateau Zay fait le best of. Demande à Michel, juste des beignets sur mon desktop. Puis demande à Steven. J'ai sold out tous mes events. Yeah. Oh, puis baisse le game, man. Sinon, j'baisse le game, man. Yeah. Clap sur le beat comme j'clap sur le ass. Flip flop, fais les tricks, backflip sur le track. Yeah. On me lise et fire. Yeah. Pas de mauvais départ, juste la ligne d'arrivée qu'on a le devoir de porter l'or. Sauf au make it right. Là pour un millénaire. Yeah, on n'est jamais fini de blow avec la familière. Sauf au make it live et prêt à vivre le rêve. Parce qu'on a rappé dans tous les coins du périmètre. Yeah. J'fume des bellos dans mon bendo. Fuck it, j'm'en prends le métro. Juste des haters dans mon rétro. De plateau et jusqu'à Saint-Eux. Cuisine, juste les beignets. J'suis jet up et j'suis mes vendeurs. Back then, j'comptais chaque scène. Yeah. Trois boys sur un Pac-Man. Yeah. Maintenant j'ai le micro et Mayen. Yeah. J'fais du rap à tous les matins. Yeah. My band, j'fais les bike jam. Yeah. J'concrétise ce que j'imagine. Yeah. All in sur mon avenir. Yeah. Rap, rap, rap. Feeling nausea, yeah.
Back then, j'comptais chaque scène, yeah. Trois boys sur un Pac-Man, yeah. Couche tard pour un Mark 10, yeah. J'donne du pourboire à ta gardienne, yeah. J'ai rien à colisser de rap cap, yeah. T'as l'air commandité par Arden, yeah. All in sur mon avenir, yeah. Rap, 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 feeling nausea, yeah. Tu peux pas fuck avec le
pen game. J'écris juste à droite, ça c'est mon Jean-Marie de pen game. Allergique au rapper cap, ça c'est mon EpiPen game. J'te laisse un dead man walking sur mon Sean Penn game. Champagne popping, on va le verser sur vos tombes. Mais non second guessing, vous allez décéder sous nos bombes. J'ai le vétéran status, première place au marathon. J'étais là avant que les rappers cap y fassent de reggaeton. Get it on, donne le papier, j'veux des stacks, c'est pas des perdièmes. Smack a fucking mumble rapper avec un becherel. Des broke dudes, peux pas fuck avec le spookiness. Old school, j'rappais déjà avant que Fookiness. On met le game en chokehold, Steve Jolley. J'fais les choses avec le bro, Stone Cold, Steve Jolley. Wind blows dans nos dos, pis on va blow up jusqu'au sommet. Gun blows sur les fosses, on laisse des hoes dans ton bonnet. Long road, le pas si long, j'étais broke, pis j'déconnais. Prends jamais de pause, travaille on the low. Sur les projets, quelques onces dans le styrofoam dose. Dans le gobelet, j'suis le goat sur le microphone, bro, tu me connais. De Saint-Eustache jusqu'à Plateau S. Quelques petits bonnets qui ont jamais rien coulé, sauf le Ralco test. De Plateau Z jusqu'à Saint-Eustache. Shout out tous les haters, j'porte le 7 sur mon blazer.
Bad gang, j'compte chaque scène. Yeah. Trois boys sur un Pac-Man. Yeah. Maintenant j'ai le micro et Mayenne. Yeah. J'fais du rap à tous les matins. Yeah. Ma bad, j'fais le bad jam. Yeah. J'concrétise ce que j'imagine. Yeah. All in sur mon avenir. Yeah. Rap, rap, rap. Feeling nauseous.
Écoutez les affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
54 chez les affamés, Félix-Antoine Audet, Mégane Asselin qui vous accompagne pour encore quelques minutes. On vient d'entendre Joël Boutin de la Coalition Avenir Québec, deuxième candidate à passer sur nos ondes, la tournée des candidats dans Jean Talon. Vous allez pouvoir retrouver ça si vous l'avez manqué. Les podcasts sont sur chiz943.com. On va les repartager sur nos pages Facebook aussi. Julie White qui a été enregistrée ce matin, ça va être diffusé plus tard cette semaine. Olivier Bolduc de Québec solidaire, Julie White du Parti libéral et Olivier Bolduc de Québec solidaire, lui qui sera présent jeudi. Donc ne manquez pas ça. Pour l'instant, on va terminer avec le meilleur pour la fin. Nicolas Leclerc, comptable à qui et nous accompagne pour nous parler de sujets économiques. Comment vas-tu, Nicolas?
Super bien, vous autres?
Très, très bien.
Ça va.
Ça va, correct. Par-ci, par-là. Nicolas, tu vas tenter de nous parler de quelque chose qui a marqué cette campagne électorale, le fameux fonds des générations dans lequel tout le monde veut piger. C'est quoi le maudit fonds des générations?
C'est tellement mal compris, hein? c'est pas évident non plus. Le fonds des générations, ce qu'il faut voir, c'est comme un compte épargne, OK? Si on veut synthétiser ça là, rapidement, c'est comme un fonds d'épargne. Ce qui s'est passé, c'est que la dette était tellement pas chère avec les taux d'intérêt qui étaient anémiques dans les dernières années que le gouvernement s'est dit, au lieu de rembourser une dette qui va nous faire sauver 1% d'intérêt, même pas, OK, on va mettre de côté puis on va le placer à un taux de rendement beaucoup plus élevé. Donc, c'est un peu ça le principe, c'est d'investir. Le gouvernement investit de l'argent dans des portefeuilles d'investissement avec la caisse de dépôt, comme avec le ARQ, les fonds de pension, etc., pour générer plus de rendement que n'en coûte ce financement-là. Fait que finalement, c'est d'investir avec de la dette, donc l'effet de levier. Dans le cas d'un gouvernement, c'est pas trop stressant parce que leur capacité à générer de l'argent est assez puissante, mettons. Donc, c'est pas trop stressant de ce côté-là. Et fait que piger dans le fonds des générations, ça revient à dire de se réendetter. Okay? Puis, petite parenthèse intéressante, là, dans les budgets, quand on dit, mettons, un déficit de 10 milliards, puis qu'il y a 3 milliards qui ont été mis au fonds des générations, le vrai déficit, il est de 7 milliards. C'est un peu ironique de dire que l'argent qu'on met de côté fait partie de notre dette, mais c'est de même, c'est calculé.
Okay.
Fait que, finalement, c'est ça, c'est une façon d'économiser et les intérêts, donc le revenu de ça qui est plus élevé, va permettre aux générations futures de pouvoir rembourser la dette.
Là, ce qu'on entend de la part de certains partis politiques, c'est de dire là, la dette, elle est sous contrôle, ce qui nous permet d'aller chercher là-dedans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la dette est sous contrôle?
La dette, elle continue à augmenter par rapport au PIB, l'évolution des marchés économiques.
Parce que c'est ça l'important, là, c'est le pourcentage
c'est ça, c'est
avec
pourcentage,
le PIB.
Okay? Fait que c'est pas tant en termes de dollars. Là. Avoir 5 milliards de dollars de dette, si vous en valez, je sais pas moi, 200 milliards, c'est pas trop stressant. L'évolution n'est pas tant que ça, mais en termes de dollars, c'est énorme.
Oui.
Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est pas. Idéalement, ça serait de diminuer cette dette-là, mais si elle augmente à un rythme moins vite que l'augmentation du PIB, par exemple, ben c'est quand même moins stressant. Là, okay. Fait que c'est évolutif là-dessus.
Donc là, il y a des partis pour différentes raisons qui veulent piger là-dedans. Du côté de tout ce que j'ai compris, il n'y a aucun parti qui veut aller piger directement dedans, mais veut arrêter les versements au Fonds des générations, Québec solidaire pour la transition écologique, la Coalition Avenir Québec pour financer des baisses d'impôts. Est-ce que c'est une bonne idée, selon toi, de jouer là-dedans?
Je mets un bémol. Oui, ça peut être une bonne idée de réinvestir dans certaines affaires, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'épargne pas cet argent-là pour le Fonds des générations puis qu'on ne paye pas notre dette, ça revient à dire qu'on s'endette. Là, c'est vrai. Fait que ne pas cotiser là-dedans ou ne pas rembourser notre dette, c'est une façon de se réendetter pour investir. Le fait de s'endetter pour investir n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais il faut le faire de façon responsable. Fait que ça, c'est clair là-dessus.
Donc, si un parti a un cadre financier qui est assez rigoureux, qui est bien planifié, c'est pas nécessairement catastrophique pour la génération future que de piger là-dedans. Là.
Je pigerai pas là-dedans.
D'arrêter
les versements. Mais tu sais, ça vient au dire la même chose qu'on va emprunter pour investir dans notre projet. Ça vient au même. Okay? C'est un compte épargne puis un compte de marge. Voyez-le de même. Si vous investissez dans un ou que vous remboursez l'autre, en bout de ligne, vous n'êtes pas plus riche. Hein? Vous avez juste transféré l'argent d'une place à l'autre. La seule chose, c'est le coût d'emprunt versus le rendement sur votre portefeuille d'investissement. Puis une dernière parenthèse pour fermer rapidement. Si on est contre le fonds des générations, parce que je sais que certains partis disent que ça ne sert absolument à rien, ben à ce moment-là, tous les fonds de pension, le ARQ, etc., au lieu de l'investir dans la caisse de dépôt, si on n'a pas confiance en nos institutions, ben on serait mieux de rembourser notre dette en entier plutôt que de gérer.
Nicolas Leclerc, merci, qui sera avec nous de temps à autre pour discuter de sujets économiques. Megan Asselin, merci de m'avoir enduré pendant 2 jours.
Ben, merci à toi.
Là, t'as un break.
Encore pour une semaine, disons.
Exact. Je vous retrouve, moi, demain, en compagnie de Jessica Poirier-Roy. Même heure, même pas, c'est midi à 13h, les affamés. Merci d'avoir été là.
Le temps d'un gin tonic, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun. Voici ce qu'on